Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Vous m'entendez bien? Ça va? Ouais? Ok. Bah, on est parti. Et avant de démarrer mon message, je voudrais vraiment encore proclamer l'autorité de Dieu ce matin et vraiment proclamer que c'est un Dieu de vérité. Et je crois profondément dans mon cœur que ce matin, eh bien, Dieu veut pulvériser littéralement des mensonges que Satan vient ensemencer dans nos cœurs et au travers des circonstances. Et vraiment, j'ai sur mon cœur cette parole, qui est la Bible, qui dit que la parole est comme un marteau qui vient pulvériser le rocher. Et ce matin, je veux le proclamer pour chacun d'entre nous. Et ce matin, je me mets également, tout comme Sandy l'a fait pour la louange, eh bien, je le fais aussi pour la prédication. Je me mets sous l'autorité de Dieu, sous l'autorité du Seigneur. Et je remets ces temps, Seigneur, sous ton autorité, sous ta parole, Seigneur, qui est vraie, qui est véritable et qui passe d'âge en âge, eh bien, je me remets sous ton autorité et je remets tous mes frères et sœurs ici présents sous ton autorité, sous la parole de Dieu. Amen.
Amen.
Amen. Alors, la dernière fois que j'avais prêché, j'avais abordé le thème « Viens dans mes fleuves d'eau vive ». Est-ce que ça en parle à certains ? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Je sais que ça remonte à un certain temps. Alors, je vous ferai pas le défi de me redire ce que j'ai pu dire, etc. Je vais, moi, vous rafraîchir un tout petit peu la mémoire si c'est nécessaire. Et alors que Dieu nous faisait vraiment cette invitation de venir, eh bien, dans les fleuves d'eau vive, nous avions vu tout ce que représentaient spirituellement les fleuves d'eau vive. Et en fait, on se rend compte que c'est génial, que c'est rempli de la vie du Seigneur, de la vie, de la puissance de Dieu, que ça nous nettoie, que ça nous purifie, que ça nous ressource, que ça nous rassasie, ça nous abreuve. Mais alors que nous faisions ce constat, eh bien, nous pouvons aussi nous rendre compte que, eh bien, nos cœurs, parfois, sont détournés de la présence de Dieu, sont détournés de la présence de Dieu et de ce que Dieu veut faire au milieu de nous lorsque nous sommes ici dans l'assemblée ou lorsque nous sommes chez nous dans nos temps personnels avec le Seigneur ou en famille. Eh bien, nos cœurs peuvent être détournés parce que nous avions, eh bien, de la distraction. Parce qu'il y a aussi la lassitude, finalement, les choses de l'esprit, on connaît, on sait, et rentrer dans de nouvelles profondeurs, ben, ça nous dit pas. Il peut y avoir aussi de la jalousie, les faiblesses physiques et psychologiques qui viennent nous freiner dans notre marche et dans notre capacité à entrer dans les fleuves d'eau vive. En tout cas, on estime que ce sont des limites. Et aussi l'estime de soi. Et j'avais aussi abordé la difficulté de s'approprier notre identité d'enfant de Dieu, notre qualité d'enfant de Dieu. Et alors que j'évoquais cette difficulté de s'approprier, eh bien, le fait que nous sommes enfants de Dieu, d'un Dieu si glorieux, si grand, si majestueux, eh bien, Dieu m'avait vraiment et véritablement poussée par l'esprit et j'étais descendue de l'estrade et je vous avais parlé de la manière suivante et c'était Dieu qui parlait au travers de ma bouche. Et Dieu te disait, il nous disait à chacun d'entre nous, tu te demandes comment ce Dieu si grand peut te voir au milieu de la foule. Vous vous rappelez de ce moment-là pour ceux qui étaient là? Et pour ceux qui n'étaient pas là, vous avez rien perdu, je viens de vous faire un petit condensé là. Et alors que Dieu disait voilà la question que tu te poses dans ton cœur, eh bien moi je vais te répondre. Et alors que j'étais descendue de l'estrade et que je passais de rangée en rangée, eh bien Dieu nous disait de la dernière rangée au premier rang, Dieu te voit. Et j'aimerais nous rappeler ce matin que de la dernière rangée au premier rang, Dieu te voit. De cette rangée-là, cette rangée-là, cette rangée-là, cette rangée-là, du dernier rang jusqu'au premier rang, Dieu te voit. Amen.
Amen.
Dieu voit chacun d'entre nous. Dieu connaît notre cœur, Dieu connaît ton cœur, à toi qui es assis au bout de la salle et le cœur de celui qui est assis au premier rang. Et alors que je parlais ainsi, Dieu va nous faire l'invitation suivante. Il disait en fait que tu sois au bout de l'église ou que tu sois au premier rang, Dieu connaît tout de ta vie et Dieu connaît les moindres détails de ta vie. Amen. Il connaît qui tu es, comment tu t'appelles. Il sait ta date de naissance quand tu es né. Il sait qui tu es, qui tu as pour parents, pardon, qui tu as pour frères et sœurs. Il connaît ton vécu, tes douleurs, tes joies, tes peines, tes forces, tes faiblesses, les choses avec lesquelles tu n'y arrives pas, tes combats. Il connaît tes réussites. Et il disait, moi qui suis ce grand Dieu et qui connais les plus grands de la terre, je te connais toi et je t'appelle par ton prénom ce matin. Et il t'invitait dans la présence de Dieu. Amen. Et alors il nous disait, je connais tout, 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 tout de toi. Et je te voyais dans le sein de ta maman lorsque tu n'étais qu'une masse informe. Je te voyais. Amen. Eh bien, ce matin, Dieu me demande de faire un arrêt sur image sur les paroles qu'il a dites à ce moment-là. J'avais dit bien d'autres choses, mais depuis que j'ai prêché depuis le mois d'avril, et c'est pour ça que j'ai ce t-shirt-là, pour ceux qui ont une mémoire visuelle, vous êtes uniques aux yeux de Dieu. Et ce matin, Dieu veut qu'on fasse un arrêt sur image et que la parole de Dieu vienne pénétrer ton cœur et que tu repartes de ce lieu avec l'assurance que Dieu te voit, que Dieu te connaît, mais non seulement qu'il te voit et qu'il te connaît, mais que tu es en lui. Amen. Et que tu es unique à ses yeux. Amen. Et alors que Dieu utilisait ma bouche pour prononcer ces paroles-là, ben, vous savez, quand on exerce le don prophétique, on ressent tout ce que la personne ressent et tout ce que Dieu veut nous faire passer comme message. Et je dois dire que j'étais bouleversée par les paroles parce que j'en étais imprégnée littéralement de la tête aux pieds. Et vraiment, ce que je ressentais, c'est vraiment ce sentiment qu'on peut être perdu au milieu de la foule. Perdu au milieu de notre adversité, perdu au milieu de nos épreuves, et que tout vienne dire « je suis seul, Dieu ne me voit plus, Dieu ne me voit pas, il m'a abandonné ». Et ça, c'est le secret de nos cœurs, ces phrases qui viennent comme ça, sans être ensemencées dans nos cœurs, et Dieu le voit, et Dieu veut venir bouleverser nos cœurs ce matin, et mettre sa parole, et mettre sa vérité. Et quelque part, parfois, on est comme un enfant. Vous savez, quand les enfants en bas âge, ils sont là, dans un parc, ils sont bien, ils sont au milieu de la foule. Puis d'un seul coup, ils disent, attends, je suis où là? Où sont mes parents? Et ils vont chercher du regard le visage de leurs parents. Et une fois qu'ils ont vu le visage de leurs parents, alors là, on revoit le sourire sur leur visage. Ils disent, ok, papa, maman, un visage familier est là. Je peux continuer à jouer, je peux continuer ma petite vie. Et ce matin, ce que Dieu vraiment veut nous inviter à faire, c'est de dire, je te regarde et je t'invite à plonger tes regards vers moi, tes regards vers le Dieu que je suis, à élever nos cœurs, nos pensées vers la vérité, le Dieu de vérité. Amen. Et pourquoi est-ce qu'il est important que tu saches ce matin que Dieu te voit, que Dieu te connaît et que toi, c'est important que tu viennes à lui et en lui. Calvin dira cela, il dira en fait que presque la somme de toute de notre sagesse, à savoir la vraie et solide sagesse, consiste en deux points. La connaissance de Dieu et la connaissance de nous-mêmes. Calvin, ce grand réformateur, explique que les deux connaissances sont inséparables. Tu ne peux pas vraiment te connaître véritablement dans la vérité qui tu es si tu ne connais pas Dieu. Et en même temps, nous ne pouvons pas connaître Dieu sans reconnaître ce que nous sommes devant lui. En d'autres termes, si nous voulons comprendre notre identité, nous devons d'abord regarder à qui est Dieu, car c'est en lui que nous découvrons notre origine, notre valeur et notre but. Tu veux savoir ton origine, ta valeur et ta destinée, regarde à Dieu, fixe tes yeux sur Dieu, regarde au Dieu de vérité. Amen. Amen. Et en dehors de ce regard, Calvin dira, notre perception de nous-mêmes est faussée et floue. Tu ne trouveras jamais ta réelle identité dans le monde. Dans les critères de ce monde, dans les paramètres de ce monde, il n'y a pas ta vraie identité, il n'y a pas ta véritable valeur. Ta véritable valeur, ta véritable origine et ta véritable destinée, elle est en Dieu et en Dieu seul. Amen. Alors connaître Dieu, c'est apprendre à se connaître soi-même. car nous avons été créés à son image. Dieu créateur qui a créé l'homme à son image. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu n'es pas créé à l'image d'un singe, tu es créé à l'image de Dieu. Amen. Et pourquoi est-ce si important pour Dieu que nous ayons cette vérité ancrée en nous? Parce que finalement, une fausse information va engendrer en nous une fausse pensée et une fausse manière de penser. Parce qu'une fausse manière de penser va engendrer en nous une fausse manière d'agir et de considérer les choses. Tu auras une fausse conception de Dieu lui-même si tu ne viens pas dans la vérité. Tu vas rester avec tes conceptions à toi, avec ce que tu comprends sans le caler sur la vérité. Tu vas te tromper sur qui tu es, sur quelle est ton origine, ta valeur et ta destinée. Tu vas te tromper. Et tu seras dans l'erreur et ça peut même fausser des relations. Quand on ne comprend pas qui est Dieu et qui nous sommes, même nos relations peuvent en pâtir. Et comme tout le monde, eh bien, notre identité depuis que nous sommes nés, nous existons et nous découvrons une valeur et qui nous sommes au travers du regard des autres. Nous apprenons à reconnaître l'approbation de nos parents quand nous faisons des choses mal, pas bien, on reconnaît le visage, pas content ou content, on voit le visage admiratif, joyeux de nos parents qui nous trouvent bien, qui vont nous encourager, etc. Eh bien, Dieu te dit que autant tu as appris à grandir au travers du regard des uns des autres, autant tu es appelé à grandir et à briser des mensonges au travers de son regard. Amen. Alors, ce matin, je vais vous inviter à plonger dans le regard de Dieu. Et mon premier point, c'est on va se concentrer sur qui est Dieu. Eh bien, comme nous l'avons chanté ce matin et déclaré, nous avons un Dieu qui est vivant. Amen. Et si nous sommes là en tant que créatures vivantes, corps, âme et esprit, pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, eh bien, c'est parce que nous avons un Dieu vivant. Aucune vie ne pourrait subsister sans un Dieu vivant. Si nous adorions une statue, si nous n'avions pas ce Dieu de vie, il n'y aurait pas de vie sur terre. C'est aussi simple que ça. Et l'Éternel, dans Genèse, il nous a dit que l'Éternel, eh bien, va façonner l'homme avec de la poussière. Qu'est-ce que la poussière? Mais il va insouffler son souffle pour donner la vie. Et Dieu est la source de toute vie. Et dans Jean 6, au verset 57, Jésus lui-même va déclarer « Comme le Père qui est vivant, m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange, eh bien, vivra grâce à moi. » Jésus lui-même savait qu'il existait et qu'il pouvait être vivant que grâce au Dieu vivant. Et ce matin, tu peux être vivant, vivant spirituellement et connaître ta vraie identité que grâce au Dieu vivant. Amen. C'est pour cela que Jésus, qui est Dieu fait homme, qui est parole faite chair, eh bien, lui-même s'est déclaré dans Jean 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. » En lui, tu as la résurrection et en lui, tu as la vie. La résurrection et la première résurrection, je voudrais vous parler ce matin des deux résurrections. C'est la première résurrection, c'est lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu as déclaré Jésus comme sauveur et Seigneur, eh bien tu es né de nouveau, ton esprit est né, tu es revenu à la vie spirituellement et la parole de Dieu déclare que tu es assis dans les cieux célestes avec le Seigneur. Amen. Tu es assis dans les cieux célestes, tu es physiquement là, mais spirituellement, eh bien, tu es assis dans les cieux célestes avec Jésus. Et nous goûterons un jour à une deuxième résurrection. La deuxième résurrection, et Paul en parlait tout à l'heure, tous ceux qui nous ont quittés, eh bien, aujourd'hui sont dans la présence de Dieu, ils ont quitté leur corps et leur âme et sous l'autel dans la présence de Dieu, dans une forme, comme Paul l'a dit, qu'on ne peut pas imaginer, on ne sait pas exactement comment c'est, c'est un mystère, Mais par contre, la parole de Dieu nous dit que quand Jésus reviendra, alors nous quitterons nos corps et nous prendrons des corps glorieux. Et ça, c'est la deuxième résurrection, c'est la résurrection des corps. Tous ceux qui sont morts, qui ont été ensevelis, ils ont quitté leur corps. Mais quand Jésus reviendra, en un instant, en un éclair, nous serons dans un corps glorieux. Et ceux qui seront vivants seront changés instantanément dans un corps glorieux. Amen. Et nous serons avec le Seigneur. Alors il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la résurrection et la vie. En lui nous sommes ressuscités. En lui nous avons déjà la vie éternelle. En lui nous sommes vivants. Et un jour nous prendrons des corps glorieux et nous serons éternellement avec tous nos bien-aimés dans la présence de Dieu. Amen. Alors oui, c'est le Dieu vivant, c'est un Dieu qui te voit parce qu'il est vivant. Il connaît tout de toi parce qu'il est vivant. Amen. Et il est le Dieu de l'infini. Ésaïe 43, verset 10. L'Éternel déclara cela. Avant moi, il n'y a pas été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Dieu est le Dieu de l'infini. Dieu est le Dieu incréé qui existe en tout temps. Il n'y a personne qui a créé Dieu. Il est là, c'est un mystère. Il est là d'âge en âge, il règne. Éternité en éternité, il règne. Dieu est incréé, Dieu est infini. Alors pourquoi il nous voit chacun d'entre nous? Parce que comme il est infini, comme il est hors du temps, eh bien il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Omniscient, il est infini dans sa connaissance. Que pouvons-nous lui cacher? Il connaît tout homme, toute femme. Il connaît tout, tout, tout sur toute la terre, de l'origine jusqu'à l'éternité. Il est hors du temps. Il est omniprésent, il est infini dans sa présence. Partout, d'âge en âge, il règne. Et omnipotent parce qu'il est infini dans son pouvoir, dans sa puissance. Qui est l'égal de Dieu? Qui est l'égal de Dieu? Personne. Il est le Dieu éternel, sans commencement ni fin. Il n'a pas besoin d'une succession. Il est le Dieu d'éternité en éternité. Et au psaume 90, verset 2, alors que c'est un psaume où Moïse parle justement, il dira que c'est le Dieu d'éternité en éternité, tu es Dieu, eh bien Moïse fera le constat qu'autant nous avons le Dieu éternel, et en même temps nous sommes confrontés à la brièveté de notre vie. Moïse dira 70 ans et 80 ans pour les plus robustes. Il comprenait, il déclarait dans ce psaume la brièveté de notre vie d'homme et de femme face à l'éternité de Dieu. Mais ce matin, je vous encourage à regarder au Dieu éternel, au Dieu qui vous a donné la vie éternelle et qui peut encore la donner ce matin à celui qui veut venir à lui. Amen. Dieu est le Dieu du salut. Le salut est en Dieu. Pourquoi Jésus a pu déclarer qu'il est la résurrection et la vie, que nul ne vient au Père que par lui, que la vie éternelle est en lui? Parce qu'il était Dieu fait homme et parce que Dieu est le Dieu du salut. David, Jonas comprendront que Dieu est le Dieu du salut. Jonas, il a fallu qu'il soit mis dans la bouche d'un poisson pour qu'il comprenne que le salut appartient à l'Éternel. Le jugement des hommes, ce qu'on veut dire sur la vie des uns et des autres, ce n'est que le jugement des hommes, mais le jugement de Dieu. Ce que Dieu dit, il dit que tu peux être sauvé encore et encore, tant que un jour, toutes les portes se fermeront. Un jour, il n'y aura plus de grâce. Lorsque Jésus reviendra, le temps de grâce sera terminé. Mais encore aujourd'hui, c'est un Dieu de salut. Il y a encore le salut. Et le salut, parce qu'il est en Dieu, il n'est pas dans une philosophie, il n'est pas dans des rites, il n'est pas dans des traditions. Le salut, si tu m'écoutes ce matin, il est en Dieu et en Dieu seul. Et tu peux tourner ton cœur vers Dieu ce matin et recevoir la vie éternelle par la foi. Amen. 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 Oui, nous pouvons acclamer Dieu. En lui seul, le don gratuit au travers de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Mais ce qui est déroutant pour l'homme, c'est que Dieu est invisible. L'avez-vous vu physiquement? L'apôtre Paul, merci d'oser répondre, Anto. Dans 1 Timothée 6, verset 16, l'apôtre Paul dira que nul homme ne l'a vu ni ne peut le voir. Mais un jour, nous le verrons face à face, à visage découvert. Mais nous ne pouvons le voir, il est invisible. Depuis la chute de l'homme, depuis la chute d'Adam et Ève, eh bien Dieu s'est dérobé à la vue de l'homme. Alors c'est pour ça qu'il nous faut croire par la foi ce que la Bible dit, parce que Dieu est invisible. Il se manifeste auprès de l'homme et il s'est manifesté au travers de Jésus-Christ, parole faite chair, Jésus-Christ, Dieu fait homme, au travers du Saint-Esprit et au travers de la parole de Dieu. Tu peux découvrir qui est Dieu. Et le Saint-Esprit, parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit, ça veut dire qu'il est sans chair ni os. Il n'est pas palpable et pourtant il est si puissant. Et il est si puissant par la puissance de son esprit lorsque nous disons dans notre vocabulaire que nous sommes visités par Dieu, que nous sentons sa présence, c'est l'esprit, esprit à esprit. Il est dit dans Jean qu'il est temps, qu'il est venu le temps où il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. En esprit parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit sans chair ni os. Pourtant, me direz-vous, la Bible parfois nous parle des mains de Dieu, des yeux de Dieu. Même ce matin, je vous parle de son regard, qu'il faut plonger notre regard dans son regard, et qu'il a des oreilles, qu'il a des pieds. Eh bien, ce sont des représentations imagées que Dieu nous a données pour que nous puissions accéder à une compréhension de la part de Dieu. Et Jésus faisait pareil, il parlait beaucoup avec des images parce qu'il se met à notre niveau en disant « je vais te parler avec une image et tu vas comprendre ». Ce sont des images pour que nous puissions comprendre à quel point Dieu est vivant et à quel point il nous voit, il nous connaît, il entend tout. Amen. Dieu a des émotions. Il aime, il nous aime, il a aimé le monde, il a aimé les Israélites, il aime le monde, il aime ceux qui sont venus à lui. Il hait le mal, il hait le péché que l'on peut commettre. Et la parole de Dieu nous dit clairement que nous serons, qu'il y aura un jugement. Le premier jugement, c'est, est-ce qu'on dit qu'après la mort, eh bien, il est permis à l'homme de mourir qu'une seule fois, ce après quoi vient le jugement. Premier jugement, est-ce que tu écris dans le livre de vie, oui ou non? Oui, tu es la présence de Dieu. Non, tu es hors de la présence de Dieu. Deuxième jugement, ce sera le jugement de nos œuvres, nos agissements. Ce que nous avons fait tout au long de nos vies, de notre vie, nos actes, eh bien, Dieu ouvrira ses livres. Il est dit dans l'Apocalypse, il ouvrira les livres. Il regardera toutes nos actions. Et là, nous serons tous jugés. Pour nos actions, est-ce que nous les avons fait avec amour? Est-ce que nous les avons fait, dans la vérité, avec l'amour que Dieu nous demandait? Dieu a une intelligence, une volonté, une personnalité. Il a de la compassion, il est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Amen. Il est le Dieu saint. L'adjectif saint est l'adjectif le plus utilisé pour qualifier Dieu tout au long de la Bible. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et qu'est-ce que ça veut dire saint au fond? Ça veut dire être séparé, Dieu est séparé et exalté au-dessus de toute la création. Parce qu'il est saint, il ne peut approuver le péché et il le jugera. Et Dieu, nous l'avons chanté, Dieu nous aime infiniment. 1 Jean 4, versets 8 à 16, Dieu est amour. Dieu est amour. Donc 1 Jean 4, versets 8 à 16, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Amen. Et cet amour consiste non pas... Alors je suis désolée, je ne vois pas bien, je vais me mettre là. Dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé... Ouais, pardon. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Bien aimé, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu nous a tant aimés. Dieu nous a tant aimés, il nous a aimés le premier. Et Dieu, eh bien, il est plein de grâce, plein de miséricorde, de justice, de sagesse. Il est fidèle. Il est plein de vérité, plein de grâce, plein de fidélité, parce qu'il aime, parce qu'il est amour. Il est le Dieu de lumière, il est lumière. 1 Jean 1, verset 5. Il est dit, voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Parce qu'il n'y a pas de ténèbres en lui, Dieu ne peut pas faire le mal. Parce qu'il n'y a pas de ténèbres en lui, Dieu ne peut pas mentir. Parce qu'il n'y a pas de ténèbres en Dieu, Dieu n'est pas infidèle. Parce qu'il n'y a pas de ténèbres en Dieu, Dieu n'est pas tenté par le mal et ce n'est pas Dieu qui te tente auprès du mal. Parce qu'il n'y a pas de ténèbres en lui, Dieu, tout ce qu'il fait, il le fait avec sagesse, justice et sainteté. Amen. Et ce Dieu-là, ce Dieu du salut, ce Dieu qui est amour, ce Dieu de lumière, ce Dieu de vérité, ce Dieu qui t'aime, ce Dieu qui est plein de bonté, lent à la colère, miséricordieux, patient, mais qui un jour ne jugera dans la vérité, la justice et l'équité, eh bien c'est ton Père céleste. Et ce que Dieu nous disait la dernière fois quand il nous faisait cette invitation en disant « Je connais tout de toi », eh bien c'est un papa qui parle à sa fille et à son fils. Un papa qui te dit « Je suis ton Père céleste et je suis ce grand Dieu de salut, ce grand Dieu éternel, ce grand Dieu infini, ce Dieu qui jugera, ce Dieu de vérité, ce Dieu d'amour, ce Dieu de salut, mais je suis un Père pour vous, un Père céleste. » 1 Jean, chapitre 3, verset 1, il est dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Amen. Toi qui te demandes si Dieu te voit au milieu de la foule, au milieu de ce monde, à travers les nations, eh bien oui, Dieu te voit. Il est ce grand Dieu, tous les adjectifs que j'ai voulu vous dire ce matin, et on pourrait passer des journées et des journées à parler de Dieu, à faire comme ceux qui ont écrit les psaumes et à déclarer ce que nous connaissons de Dieu. Parce que comme ce matin, Dieu veut vraiment que nous fassions cette pause, cet arrêt sur image sur qui il est. Alors il est ton Père céleste. Et tout ce que nous avons, eh bien, vu et au travers de ce que je viens de dire, et en Christ, eh bien, nous sommes sa fille et son fils bien-aimé. Tu n'es né ni de sang, ni de la volonté d'homme, mais de la volonté de Dieu. Ce matin, tu es né de la volonté de Dieu. Quand tu as donné ta vie au Seigneur, c'était la volonté de Dieu. C'était dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Dieu. Amen. Et vous avez besoin, pour certains, d'entendre ce matin que tu n'es pas un SDF. Tu n'es pas sans domicile. Parce que ce que j'avais reçu cet été, j'avais vraiment ce songe, j'ai eu ce songe cet été, où Dieu me montrait, eh bien, un SDF, une personne qui est dans la rue. Et il me faisait ressentir que cette personne n'avait jamais ressenti au plus profond de lui-même ce que c'était être dans les bras du Père. Et Dieu, ce matin, te dit, tu es dans mes bras, tu es en moi, tu es assis dans les cieux célestes avec moi, en Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix pour toi, pour chacun. Et je pourrais refaire comme la dernière fois, prendre le temps de dire, mais c'est pour chacun, au prix de la vie de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, tu es assis dans les cieux célestes. Alors ne laisse jamais Satan croire que tu es ravi de la main de l'Éternel. Ne le laisse jamais croire ça. Ne crois jamais ça de ta vie. Ne le crois jamais. Parce que c'est au prix de Jésus sur la croix. Et tu es racheté. Tu es racheté au prix de Jésus. Au prix de sa vie à la croix. Quel autre prix aurais-tu voulu? Quel autre prix que celui qui était sans tache, sans défaut, sans péché à la croix pour chacun d'entre nous? Tu es dans les cieux célestes. Et si tu devais mourir demain, tu serais avec Dieu. Amen. Tu es dans la maison et tu seras dans la maison du Père. Il faudrait que tu renies Jésus pour ne pas y être. Et ce n'est pas parce que tu tombes, plusieurs fois que tu n'es plus dans la maison du Père. La parole de Dieu nous dit, le juste tombe 7 fois, mais 7 fois, le Seigneur l'en relève. Amen. Et je vais te dire jusqu'où Dieu voit ta vie maintenant, mon deuxième point. Proverbe 15, verset 3, eh bien, il est dit que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu observant les bons et les méchants. Dieu voit tout le monde, les bons et les méchants sous son regard. Jérémie 23, versets 23 et 24, il dira au travers de la bouche de Jérémie, « Suis-je un Dieu qui ne considère que les réalités proches, déclare l'Éternel ? Ne suis-je pas un Dieu qui voit aussi de plus loin ? Quelqu'un pourrait-il se dissimuler dans des cachettes que moi je ne le vois, déclare l'Éternel ? Est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre ?» L'œil de l'Éternel ne s'arrête pas aux frontières de notre pays. Tu peux aller n'importe où. Tu pourrais te cacher dans le creux d'une montagne que l'Éternel te verrait. Dans le creux d'une montagne, l'Éternel te trouvera. Et l'Éternel non seulement nous voit physiquement, mais il connaît l'intérieur de notre cœur. Tes plus secrètes pensées, Dieu les connaît. Il dira toujours au travers de la bouche de Jérémie, au chapitre 17, versets 9 et 10. Le cœur de l'homme est tortueux plus que tout et il est incurable. Qui peut le connaître ? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite et ses agissements. Dieu connaît tout ton être intérieur. Il connaît tout, tout, tout de toi. Il connaît tes motivations, tes projets, tes pensées, les pensées les plus secrètes, tes buts. Il connaît tout, tout, tout de toi. Amen. Et nous avons ce merveilleux psaume 139 du verset 1 à 16 où on voit à quel point Dieu est omniscient, omnipotent, il connaît toutes choses. Le psaume de David, il dira « Éternel, tu m'examines et tu me connais ». Tu sais quand je m'assis, quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et toutes mes voix te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit ? Où pourrais-je fuir loin de ta présence ? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Est-ce que tu le crois ce matin ? Est-ce que tu le crois qu'il y a un livre où tous tes jours sont inscrits devant l'Éternel ? Amen. Et il est dit aussi, eh bien, que avant même que nous soyons conçus, Dieu nous avait déjà dans son cœur. Dieu, avant même, qu'il dira aussi à Jérémie, avant même que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais avant ta naissance. Dieu nous connaissait chacun d'entre nous avant notre naissance. Et au psaume 56, verset 8, David dira, tu comptes les pas de ma vie errante, tu recueilles mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ? Et Dieu, il se soucie de toi au point où chacune de tes larmes sont dans son outre et sont inscrites dans ces livres. Il connaît tes souffrances, il connaît tes douleurs, il sait ce que tu traverses, il sait dans quelle adversité tu es. Et non, ça ne lui fait pas rien. Dieu pleure avec nous, Dieu est avec nous pour nous consoler et pour nous guérir. Il dira aussi que même nos cheveux sont comptés. Ce grand Dieu de l'infini, d'éternité, d'âge en âge, il règne, il sait combien tu as de cheveux sur la tête. Est-ce que tu peux les compter, tes cheveux? Est-ce que tu peux les compter? Dieu seul peut les compter. Tous les jours de notre vie, nos agissements, nos actes, qui nous sommes, notre identité, notre valeur sont dans le regard de l'Éternel et tous nos jours sont inscrits dans le livre de vie. Il n'y a pas un jour de ta vie qui ne passe pas loin de l'Éternel. Tous, les plus beaux comme les pires de ta vie, Dieu les a entre ses mains. Amen. Et un jour, nous le verrons face à face. Et je sais que c'est dur d'entendre tout ça parce que parfois nous sommes dans des situations où il y a ce que j'appelle des clashs émotionnels. Il y a ce qu'on est en train d'entendre et il y a tout ce que mon cœur, dans mes émotions, eh bien, me fait croire le contraire. Lorsque nous sommes dans des deuils soudains, lorsque nous sommes dans des violences atroces au travers de toutes les épreuves, eh bien, à chaque fois, eh bien, nous sommes appelés à nous tourner vers Dieu avec foi et en faisant le choix de croire en sa parole et en sa vérité. Et parfois, une des choses que Dieu fait pour encore plus assermenter sa parole, c'est d'utiliser le don prophétique. Et la dernière fois, lorsque je prêchais, Dieu a utilisé ma bouche pour nous parler comme ça parce qu'il veut attirer nos cœurs. Il veut attraper nos cœurs. Il veut nous attirer à lui. Et vous savez, lorsque la manière dont je suis venue au Seigneur, j'étais avec mon frère Matt, mes frères sont donnés au Seigneur, et après mon frère aîné est parti pour ses études dans le sud, et Matt, lui, il nous emmenait partout, il emmenait ses petites sœurs partout avec lui. Et pour ça, je te serai toujours reconnaissante, Matt, parce que j'ai eu ce frère où, petite sœur, viens avec moi, je t'emmène, et on va partout dans les groupes de jeunes, les réunions, et les aînés des fratries, ceux qui se tournent en premier dans les fratries, vous avez un rôle important au prix de vos frères et sœurs dans les fratries, eh bien, prenez le temps avec eux de les emmener partout, et un jour, eux-mêmes se donneront au Seigneur parce que vous aurez passé du temps et vous les aurez attirés au Seigneur. Et alors que j'étais dans ce groupe de jeunes, c'était un intergroupe de jeunes à Tourcoing, il était 2h du matin. Et il y avait la présence de Dieu et ça frappait. Il y avait un prophète qui était là, il prophétisait sur tout le monde. Et il y avait une onction, c'était un prophète, une onction prophétique et ça remplissait la salle. Et il était 2h du matin. Et je me souviens, je vais dire à Dieu, j'avais pas encore donné mon cœur au Seigneur, et je vais dire à Dieu, « Seigneur, je sais que tu ne sommeilles ni ne dors, mais je crois... Eh bien, que si tu m'entends cette nuit à 2h du matin, tu peux toucher ma vie. » Et au moment où j'ai dit ça, eh bien, le prophète m'a regardé. Et là, je savais que Dieu était en train de lui révéler ma vie et je brûlais. Il m'avait même pas encore parlé que au travers de son regard, je brûlais à l'intérieur. Je brûlais et je sentais l'Éternel. Il m'a dit, viens ma fille. Et là, ce prophète a commencé à déclarer des pensées les plus secrètes, même celles qui étaient inaudibles, que je n'ai jamais dites à personne. Il les avait dites au prophète. Pourquoi? Parce qu'il voulait me montrer tout à chaque fois que tu t'es écarté de moi, que tu n'as pas voulu donner ta vie. Eh bien, moi, je n'ai raté aucun de tes jours. Aucun de tes jours. Et il m'a montré à quel point mes pensées les plus profondes, les plus secrètes, ce que personne sur terre ne savait, lui, il le savait. Lui, il le savait. Amen. Alors, Dieu est descendu sur moi dans sa puissance. Et il m'a visité. Et j'ai donné mon cœur au Seigneur. Lorsque nous étions dans la tente pour Julia, eh bien, il y aura, c'est vrai, eu plusieurs paroles au milieu de nous et au travers de ma famille, au travers de mes amis et de mes frères et sœurs en Christ. Et Dieu sait à quel point j'en serai toujours reconnaissante. Et un jour, alors que je n'étais toujours pas enceinte, en juin 2017, Dieu va me donner ce songe-là. J'étais au milieu d'une salle où il y avait une grande foule. Et je voyais le pasteur sur scène descendre et venir vers moi. Et alors que j'allais changer de boulot, entrer dans une nouvelle saison, ce pasteur, dans le songe, me dira cela, il me dit « Ne t'achète pas beaucoup de nouveaux vêtements, parce que tu vas changer et tu vas entrer dans une nouvelle saison. » Et moi qui attendais l'enfantement, je savais que Dieu me disait « Ok, tu prends un nouveau boulot, tu t'achètes un peu de nouveaux vêtements, mais t'en achètes pas trop parce qu'un jour tu vas porter des vêtements de femme enceinte. » Amen. Et Dieu voyait déjà dans son cœur qu'il me donnerait mon premier enfant, Julia. Et Dieu, il lui a, dans sa bonté, dans sa miséricorde pour Ruben, vous savez ce qu'il a fait ? Pour le coup là, alors même que nous discutions avec Claude d'avoir un deuxième enfant, bam, j'ai deux appels de deux amis, de Josine et de mon cher ami Claudio. Il m'appelle, il commence à me dire, écoute, nous, Josine, aussi bien que Josine que Claudio, nous dira, eh bien, nous voyons que tu auras un deuxième enfant. Et il savait, et Dieu leur avait déjà révélé que ce sera un garçon. Il le révélera aussi au travers, eh bien, de la bouche de ma maman. Dieu connaît toutes choses, il connaît ta descendance, il sait qui tu es. Amen. Et ça, ce sont de belles choses, ce sont de jolies connaissances. Mais lorsque nous étions autour de mon père, je dois dire que la parole que Dieu m'avait donnée à ce moment-là était « On apprend toujours beaucoup dans l'épreuve ». Et lorsque nous étions avec Dan et que Dan nous expliquait que lui, voilà, sur le chemin, Dieu lui avait clairement montré qu'il est temps pour mon papa de rentrer dans la maison céleste, alors que nous prenions ce temps autour de mon père pour prier, pour même encore s'attendre au miracle, eh bien, je me souviens même dans ce temps-là où on voit ce corps mourant, ce corps qui va bientôt, eh bien, partir, où toute la vie va partir. On était en famille autour de mon père et on va prendre le temps de prier, de louer Dieu. Eh bien, parce que Dieu est vivant, même dans ce temps-là, et Dieu va parler. Amen. Dieu va parler. Et vous me connaissez, pour ceux qui me connaissent, je vais partir dans l'esprit et je vais sentir la présence de Dieu. Je vais sentir la présence de Dieu et je vais commencer à parler en langue et Dieu va me donner l'interprétation. Et Dieu me dira... Laissez-le rentrer à la maison. Il sera avec moi dans les cieux les plus hauts. Et je me souviens que quand Dieu m'a dit ça, je me suis dit, humainement, la pire des paroles qu'il faille donner quand on dit en fait que là, la vie s'arrête pour quelqu'un et que Dieu rappelle. Humainement, émotionnellement, de dire que mon papa allait repartir, émotionnellement, c'est ce qu'il y a de pire. Mais spirituellement, eh bien, il y a une joie inébranlable de savoir et une consolation inébranlable de savoir que notre papa est dans les cieux célestes avec l'Éternel et que lorsque c'était son dernier jour ici-bas, Dieu était présent au milieu de nous et Dieu le savait, il n'était pas pris au dépourvu. Nous étions pris au dépourvu. Nous étions pris au dépourvu des circonstances, de la brutalité, du traumatisme que nous vivions. Et c'est comme ça pour chacun d'entre nous qui avons perdu un être cher si soudainement, et même parfois au travers de longues maladies, même quand quelqu'un est longuement malade, on ne sait jamais quand il partira. Et d'un coup, le téléphone sonne et on nous dit « Il est parti » et on n'était pas là. Mais Dieu était là. Dieu était là. Dieu était là. Dieu était là. Et Dieu sera avec nous jusqu'au bout. Amen. Et je conclurai par ça en disant que bien cette unicité, ce que le fait que Dieu nous voit, nous, au plus profond de nos reins, au plus profond de ce que nous sommes, avant même que nous soyons formés dans le sein, et il nous voit jusque dans l'éternité avec lui, et selon le choix que tu fais, si tu veux endurcir ton cœur, tu ne seras pas avec Dieu, mais si tu laisses ton cœur malléable et que tu te tournes vers lui, tu seras dans l'éternité avec lui. Mais j'aimerais nous interpeller ce matin quant au fait que cette unicité, eh bien, c'est ce qui fait que nous sommes le corps de Christ. Et l'apôtre Paul, eh bien, dira dans 1 Corinthiens 12, versets 17 à 19, il dira « Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat ? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'il était tous un seul organe, où serait le corps ? Où serait le corps de Christ ? S'il nous voyait que comme une en masse, s'il ne nous voyait pas individuellement, s'il ne connaissait pas notre destinée, nos dons, ce que nous sommes appelés à porter en lui, où serait le corps de Christ? Et c'est ce que Paul dira, il parlera de la diversité des dons, du don prophétique, des ministères, de l'apostolat, de l'enseignement, des évangélistes, des docteurs, et de toute la multitude de dons qui sont renfermés dans la vie de l'Esprit. Mais où est le corps de Christ si nous ne sommes pas uniques? Où est le corps de Christ? Le corps de Christ ne peut être composé que d'hommes et de femmes qui sont uniques devant l'Éternel, où chacun est une pierre précieuse pour l'édifice de Christ, pour le corps de Christ. Et ce matin, tu peux regarder ton voisin et tu peux lui dire qu'il est une pierre précieuse dans l'édifice, dans le corps de Christ. Faites-le ce matin. Alors l'apôtre Paul dira que nous sommes tous, ces membres, nous sommes tous le corps. Chacun d'entre nous, nous formons le corps de Christ. Nous sommes ses membres, chacun pour sa part. Et 1 Pierre 4, versets 10 et 11, il nous dira, comme de bons intendants de diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Amen. Le don que tu as reçu, mets-le au service, parce que tu fais partie du corps de Christ. Amen. Et nous sommes tous et toutes des pierres précieuses. Alors ce matin, le Seigneur, veut te libérer des doutes, des mensonges que l'ennemi veut ensemencer dans ta vie, dans tes oreilles, dans ton cœur. Et il nous faut demeurer dans sa vérité. Au travers de toutes les circonstances, Dieu nous demande de faire ce choix par la foi, à croire en sa parole, à la proclamer et à la déclarer. Amen. Il nous demande de plonger nos regards en lui. Que nous puissions un jour, comme Job, dire « Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. » Amen. Et ce que je voudrais faire aussi ce matin, on en a parlé avec Wilfried, en accord avec Wilfried, je voudrais demander aux musiciens de revenir. Et si ce matin, tu veux donner ta vie au Seigneur, au travers de ce qui a été dit, tu sais que c'est le temps pour toi de donner ta vie au Seigneur, de tourner ton cœur, parce que tu veux connaître cette vie en Jésus-Christ qui dit que tu peux être assis dans les cieux célestes avec ce grand Dieu que j'ai évoqué. Eh bien, si tu veux donner ta vie au Seigneur ce matin, nous voulons te donner l'opportunité de donner ta vie au Seigneur et de dire, moi, je veux être inscrit dans le livre de vie. Nous serons tous jugés pour nos œuvres, mais seuls ceux qui auront cru au Seigneur Jésus seront dans le livre de vie et seront éternellement dans la présence de Dieu. Et ce matin, je veux interpeller les jeunes gens, ceux qui sont plus jeunes que la trentaine, même que la vingtaine. Si tu as dans ton cœur, ce feu, ce désir de donner ta vie au Seigneur, jeunes gens, jeunes hommes, jeunes filles, je t'invite à donner ta vie au Seigneur ce matin. N'attends pas d'avoir 20 ans, n'attends pas d'avoir 30 ans, n'attends pas d'avoir 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Si tu sens ce matin que dans ton cœur, tu veux déclarer que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de ta vie, je t'invite à le faire. Amen. Amen.